Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette sixième et dernière leçon de ce cours déjà, de ce cours sur la transition des nageoires aux membres des tétrapodes. Dans ce cours, dans cette leçon, nous allons discuter un petit peu d'un poisson qui est très remarquable, qui est le poisson à poumons, qui fait partie des dipneus, un poisson à poumons australien. Et puis, nous discuterons de, souvenez-vous, de ce dernier niveau d'homologie dont je vous ai parlé, qui est un niveau un peu compliqué, mais on va le faire simplement, qui concerne l'homologie entre des systèmes de régulation, les systèmes qui mettent au point ces domaines d'expression des gènes qu'on utilise comme des gènes marqueurs. Ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est peut-être au travers de cette approche qu'on réussira à l'avenir à comprendre cette question qui, je pense, vous l'avez déjà compris, n'aura pas de réponse à la fin de ce cours. Voilà, laissez-moi passer quelques minutes pour mentionner les points vraiment saillants de la leçon de la semaine passée. Je vous ai montré à plusieurs reprises cette image, c'est la dernière fois, mais c'est important pour ce qu'on va discuter aujourd'hui, qui est donc deux groupes de gènes OX existent chez les amniotes qui sont impliqués dans la fabrication des membres. Souvenez-vous, nous avons quatre groupes de gènes OX, dont deux sont impliqués de façon très importante dans la fabrication des membres. Et pour aujourd'hui, nous allons juste nous concentrer sur le fait que lorsque l'on enlève la fonction de ces deux gènes 13, les derniers, ceux qui ont une position finale dans ces deux clusters, eh bien, on enlève la structure finale, qui est donc l'autopode. Et donc, je vous disais la semaine passée que ces gènes ont deux caractéristiques. On peut évidemment les utiliser comme marqueurs. C'est-à-dire, on sait que quand on voit l'expression des gènes numéro 13 chez les amniotes, on est dans un domaine qui va donner la main. Mais c'est plus que des gènes marqueurs, puisque, on le voit ici, ce sont des gènes qui fabriquent la structure, qui le marquent. Chez les poissons, il y a eu une duplication génomique supplémentaire. Et donc, il y a un cluster supplémentaire, il y a un cluster D, deux clusters A. Et nous avons discuté la semaine passée de l'équivalent de cette expérience par lequel ses auteurs, donc Neil Shubin, le laboratoire de Neil Shubin, a donc réussi à enlever la fonction de ces trois gènes chez le poisson, donc les trois équivalents du gène numéro 13. Ce n'est pas exactement le cas, en fait, je suis peut-être un peu vite là-dessus, il y a un peu de chimérisme, mais en fait, les résultats sont vraiment clairs. Il y a deux choses remarquables. La première est que lorsque l'on enlève toutes les fonctions des gènes 13, vous voyez qu'on raccourcit de façon drastique la longueur des rayons, des lepidotriches, donc de l'exosquelette. Premier résultat. Et puis, deuxième résultat, on a une légère augmentation de la masse osseuse dans l'endosquelette. Comme s'il y avait une sorte de balance, on réduit la partie qui correspond au squelette dermique, donc à ces rayons qui sont faits de ces lepidotriches, mais on augmente légèrement et puis on désorganise légèrement la partie qui correspond au squelette endochondral, donc au squelette qui correspond, souvenez-vous, à une ossification du même type que celle que nous avons dans nos membres. Les auteurs proposent une explication qui est la suivante, et très intéressante à plus d'un titre. Dans le cas des membres amniotes, ici la souris ou les humains, vous avez ce domaine en rouge de l'expression de gène 13, et puis sur la droite, vous avez ici en rouge la structure que ces gènes vont contrôler, et puis en dessous, le résultat du mutant, donc l'absence de ces structures. C'est simple. En dessous, vous voyez la nageoire du poisson, avec dans la partie la plus distale ici, une région rouge qui correspond à la région où sont exprimés les gènes 13. Et puis ensuite, souvenez-vous, ces cellules, des cellules qui sont dans cette région vont migrer dans le repli ectodermique, donc formation du repli ectodermique, migration des cellules, et une grande partie des cellules qui migrent à l'intérieur de ce repli ectodermique sont des cellules qui expriment ce gène 13. Donc on retrouve dans les rayons, ici, dans la partie du squelette dermique, des cellules qui expriment le gène 13. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on enlève la fonction de ces gènes, on va affecter le squelette dermique plus que l'endosquelette. Sur la partie basse, ici, vous voyez l'explication qu'ils en donnent. Je vous présentais la semaine passée. Et l'hypothèse est la suivante. Lorsque ces cellules n'expriment plus ces gènes, il y a un défaut de migration, elles ne sont plus capables de rentrer dans le squelette dermique. Et c'est la raison pour laquelle les mutants ont un problème dans le squelette dermique. Mais le fait que ces cellules restent dans la partie endochondrale, dans le disque endochondral que vous voyez là, résulte dans une petite malformation de ce disque. C'est un peu comme s'il y avait des cellules surnuméraires. En fait, il y en a trop, elles ne sont pas parties. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ces cellules ? Donc, il y a une augmentation de la masse de 10%, et puis le squelette est un peu désorganisé. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire en vous remontrant cette image de la semaine passée, c'est qu'en fait, quand vous regardez ce schéma, bien que les auteurs aient voulu indiquer en rouge que ce sont des domaines d'expression de ces gènes 13, en fait, ils suggèrent chez le lecteur le fait que ces domaines sont homologues. C'est rouge, donc on va immédiatement penser que ce domaine-là est homologue à ce domaine-là. Par conséquent, la partie la plus distale est homologue à la partie la plus distale. Ce n'est pas forcément ce que les auteurs veulent dire, mais c'est quelque chose que l'on perçoit lorsque l'on regarde cette image. Or, souvenez-vous, c'est à cause de cette confusion que j'ai été amené la semaine passée à vous parler de la construction de la tour Eiffel et que la confusion qui peut être engendrée par cette notion d'homologie, et je vous remonte cette image-là pour vous redire qu'il y a en fait deux façons de considérer la construction de ces étages, soit par une information de qualité, donc à ce moment-là on va dire il faut construire le premier étage, il faut construire le deuxième étage, autrement dit il faut construire le zeugopode, le radius ulna, ensuite il faut construire la main, l'autopode. Soit on peut réfléchir à un système où vous avez une information topologique, c'est-à-dire ici l'information est il faut construire l'étage le plus distal, qui se trouve à ce stade être une partie distale. Ensuite ici, c'est la même information, il faut construire l'étage le plus distal. À ce moment-là, c'est le zeugopode, c'est le radius ulna, cubitus. Et finalement, il faut construire ici l'étage le plus distal, et c'est la main. Mais ce sont des informations qui sont extrêmement différentes. Alors, comment progresser dans ces études? Comment essayer finalement de résoudre cette question de l'homologie et de savoir si les poissons ont des traces, ont des traces de doigts? Je vous ai parlé de trois approches qui étaient les trois approches vraiment entreprises aujourd'hui par plusieurs laboratoires. Premièrement, creuser les analyses en utilisant un système modèle qui est, dans ce cas précis, le poisson zèbre, parce qu'on peut avoir une approche génétique, le génome est bien connu, il y a des outils de transgenèse, tout ce qu'on a discuté pendant ces leçons, en fait. Donc, essayer de continuer de travailler sur un système, mais qui, dès le départ, est déjà qualifié comme non représentatif de ce que nous voulons regarder, puisque vous vous souvenez, le départ des poissons osseux, par rapport aux poissons sarcoptérygiens, je vous le remontrais tout à l'heure, c'est une divergence qui se passe très tôt, en fait, dans la phylogénie. Comparé avec d'autres systèmes, on en a parlé la semaine passée, je vous ai montré deux images de polyodon, du poisson spatulaire, du poisson spatule, et puis finalement, comparer les systèmes de régulation, c'est de ça que j'aimerais discuter en fin de cours aujourd'hui. Alors, poursuivre et creuser les analyses, je vous rappelle en deux images ce que je vous ai présenté la semaine passée, une étude assez intéressante où ces auteurs font un criblage génétique, donc une approche non biaisée. Ils mutent des poissons et ils obtiennent un poisson mutant qui a des petits os surnuméraires dans la partie endosquelettique. Alors c'est intéressant parce que ce sont des os qui n'articulent pas avec la ceinture scapulaire, avec le scapulocoracoïde, sont des os qui, en fait, ont une position qui ressemble à la position de nos parties intermédiaires, du radius et du cubitus. c'est beaucoup dire, mais en termes de position relative par rapport aux eaux qui sont plus proximaux ici. Et pour cette raison, les auteurs vont se poser la question, est-ce que ces eaux, chez ce poisson mutant, ont besoin pour pousser du système qui, chez nous, fait pousser la partie intermédiaire. C'est assez compliqué comme raisonnement, mais le fait est que quand ils font l'expérience de mettre ce mutant, ce poisson mutant, sur un poisson qui, en plus, est mutant pour les gènes numéro 11, les gènes OX numéro 11, qui, souvenez-vous, sont les gènes qui fabriquent cette partie intermédiaire, hein. Je vous ai montré à plusieurs reprises, quand on enlève les gènes 11, chez la souris, on perd l'avant-bras. Quand on enlève les gènes 13, on perd la main. Et ils vont donc construire un poisson qui a à la fois cette mutation qui rajoute les os et qui est un poisson dans lequel il va manquer la fonction de ces gènes 11. Et lorsqu'ils font ça, ils perdent ces petits os bleus, là, ici, vous voyez, ils perdent ces os. Autrement dit, ces poissons mutants, pour construire ce phénotype mutant, ont besoin de la fonction de gène qui, chez nous, fabrique la partie intermédiaire. C'est un peu... c'est pas hyper simple à comprendre tout de suite, mais les auteurs interprètent cela comme, en fait, une sorte de capacité intrinsèque des poissons téléostéens, puisque dans ce cas-là, on est chez un poisson osseux téléostéen, une sorte de capacité intrinsèque de développer une partie qui serait dépendante des protéines 11, des gènes 11. Mais ils ne le font pas dans la vraie vie. Ils ne le font pas, mais ils ont gardé cette capacité de pouvoir le faire. Comment progresser ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus lorsque l'on va aller regarder des poissons qui ne sont pas des poissons modèles, dans lesquels on ne peut pas faire grand-chose, mais qui ont des positions phylogénétiques intéressantes. Et c'est là que je vous ai présenté deux exemples la semaine passée. Premier exemple, c'est un poisson chondrostéen. Alors, pas faire la confusion avec les chondrichthyens, qui sont les poissons à cartilage. Les poissons chondrostéens, par exemple, l'esturgeon, sont des poissons qui ont un problème d'ossification. La majeure partie de le squelette est cartilagineuse, mais ce sont des poissons osseux, en fait. Ils sont simplement mal ossifiés. Eh bien, je vous montrais la semaine passée que chez le polyodon, donc chez ce poisson spatulaire, l'expression des gènes OX était en fait, après quelques controverses, vous vous souvenez sans doute, était en fait très similaire à l'expression chez le poisson zèbre. Ce qui n'est pas une grande surprise vu leur position phylogénétique. Deux choses intéressantes. Voyez en rouge ici l'expression de ce fameux gène de l'actinodine. Vous vous souvenez, c'est un gène qui en fait marque ce qui va devenir le squelette, l'exosquelette, le squelette dermique, les actinotriches, les lépidotriches. Eh bien, vous voyez que le gène numéro 11, il commence dans la partie proximale, mais vous voyez, assez rapidement, il envahit cette partie distale, de la même façon que 13 le fait, il commence dans la partie proximale, et il migre, en fait, dans cette partie-là. Vous voyez que c'est chevauchant avec cette partie rouge, donc ça veut dire que, en fait, les cellules qui expriment ce gène numéro 13 chez polyodon sont des cellules, en tout cas, sont dans un espace où se trouvent des cellules qui expriment l'actinodine, par conséquent, c'est dans la structure épidermique, dans le squelette dermique. Ce n'est pas dans le disque chondrogénique qui va produire les cartilages des radioproximaux. Et puis, je vous ai également présenté deux petites études sur la roussette, le cat shark en anglais, la petite roussette, alors qui, dans ce cas particulier, est un chondrichthyen. Là, c'est vraiment un poisson cartilagineux, qui d'ailleurs, comme l'ensemble des poissons cartilagineux, n'a pas de lépidotriche, se contente d'avoir des actinotriches, les requins, etc., les raies. Donc, ils fabriquent la première étape du squelette dermique, mais ils ne vont pas jusqu'au bout, en fait. Ils ne vont pas fabriquer ces très longs rayons exosquelettique. Chez La Rossette, je vous ai montré deux études qui, là encore, en fait, ne révèlent pas la présence claire d'un domaine d'expression qui pourrait correspondre au domaine d'expression distale chez les amniotes. Vous voyez ici comment se développe la nageoire de La Rossette, presque une nageoire de requin, en fait, avec ses très longs radio-cartilagineux qui vont rester cartilagineux et puis ils vont se segmenter pour produire des plaques polygonales, etc. Et puis vous avez quelques actinotriches au bout qui ne se transformeront pas, qui ne seront pas ossifiées en lépidotriches. Et je vous ai donc montré deux études rapides, une du laboratoire de Martin Cohn, qui maintenant est en Floride, où en fait, vous voyez le développement de ces domaines d'expression, c'est assez compliqué, c'est pas très intéressant d'entrer dans le détail. La question vraiment est, est-ce que l'on peut voir chez ces animaux, pendant le développement des nageoires, d'abord la présence d'un domaine proximal, puis ensuite la présence d'un domaine distal, comme je vous l'ai montré chez les amniotes. Et la réponse, vous la trouvez en bas, ici, où ils disent, nous proposons que, en fait, c'est plutôt une extension temporelle qu'une activation des novos. Autrement dit, nous proposons que le domaine d'expression est un domaine qui se développe dans le temps, qui part proximal, qui arrive distal. Ce n'est pas du tout comme chez les amniotes, où on a un domaine proximal qui fabrique l'avant-bras, et puis plus tard, un domaine distal qui fabrique la main. On voit ici dans l'autre étude, en fait, encore une fois, la co-coloration avec l'actinodine, ici, est OXA13, qu'en fait, les cellules exprimant ce gène vont se retrouver dans la partie tout à fait distale, alors elle est moins importante chez les requins, chez les raies, parce que précisément, il n'y a pas de lépidotriche. Donc si vous vous souvenez du modèle de Peter Thorogood qu'on a discuté, on pourrait peut-être conclure que dans ce cas-là, le repli se fait assez tardivement, et donc on pousse un très grand plateau chondrogénique sans avoir beaucoup de place en fait, pour rentrer les cellules dans le squelette dermique. Une chose intéressante, je vous mentionne en passant, souvenez-vous, la semaine passée, je vous avais montré que l'expression des cellules dans le squelette dermique qui expriment ces gènes 13 coïncide avec des ostéoblastes. Ce qui n'était pas une surprise, puisque lorsque l'on enlève la fonction de ces gènes, on perd les lépidotriches, qui sont ossifiées par des ostéoblastes. Donc en fait, ces gènes, la conclusion était que ces gènes favorisent la différenciation, l'ossification des ostéoblastes. En fait. Or, chez le requin, chez la petite roussette, il n'y a pas de lépidotriche, il n'y a pas d'ostéoblaste. Pourtant, on continue à avoir l'expression de ce gène A13. Et là, on retombe vraiment sur cette image de la tour Eiffel. C'est-à-dire, est-ce que ces protéines sont là pour ossifier, pour que les ostéoblastes s'ossifient, ou est-ce que ces protéines sont là pour donner une information aux cellules? Vous êtes ici dans un domaine où vous pourriez ossifier vos ostéoblastes, et donc les ostéoblastes ossifient. Vous allez me dire, c'est une différence qui n'est pas majeure, mais qui est très importante, en fait. Savoir si ces protéines ont une action vraiment informative, directe, qui détermine quelque chose, ou bien si c'est une information plus large qui va en quelque sorte provoquer ultérieurement l'ossification des cellules ostéoblastiques. Voilà, dans aucun des cas que je vous ai présenté la semaine passée, on en était resté là, dans aucun des cas, nous avons pu voir ce que nous voyons chez les amniotes, que je vous montre là encore, où on a ces deux phases d'expression. Regardez ici, concentrez-vous sur ce petit bourgeon de membre ici, où précocement on a l'expression de gènes OX qui vont jusque dans la partie la plus distale, souvenez-vous. Sauf que, à partir de ce moment-là, des cellules vont se rajouter, puisque la partie pousse par la partie distale, donc des cellules vont se rajouter, et ces cellules positives vont rester en place. Donc si vous regardez deux jours plus tard, en fait, ce que vous voyez là, cette sorte de virgule, correspond à cette sorte de grande virgule ici. Simplement, la structure pousse, les cellules arrêtent de produire ce gène et vont en produire un autre plus tard, cette deuxième phase ici, qui sont les gènes 13. Donc on finit avec les gènes 11 ici et les gènes 13 là. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que si vous montrez cette image et que vous demandez si l'expression en vert est proximale ou distale, on vous dira « c'est distal, c'est un gène distal ». Oui, mais c'est un gène distal à ce stade. Et ensuite, ça devient proximal. Donc ça dépend quand vous regardez en fait ces domaines. Ils peuvent être d'abord proximaux, puis ensuite distaux. Voilà. Est-ce que des poissons plus proches de nous pourraient montrer des traces de ces deux domaines plutôt que tous les poissons que je vous ai montrés jusqu'à présent, poissons osseux, poissons cartilagineux, qui ne montrent pas ces deux domaines, qui montrent soit un domaine commun, qui peut être interprété comme ça, c'est-à-dire ce domaine-là, on en reste là, ou il se mélange avec ce domaine-là, donc on aurait une sorte de proximalisation d'un membre chez les poissons qui n'aurait pas d'autopode, pas de partie distale. Bon, les poissons les plus proches de nous, c'est évidemment les poissons sarcoptérygiens, puisque nous sommes des sarcoptérygiens. Malheureusement, ces poissons, c'est essentiellement des fossiles. Première leçon, je vous en ai montré, tectalique, sauripterus, etc. Tous ces fossiles de poissons sarcoptérygiens qui ont donc fait cette transition ici vers les amniotes. Sauf que vous voyez ici, tous ces poissons sont éteints. Il y a une branche qui part ici, les sarcoptérygiens. Là, on a les poissons cartilagineux, les poissons osseux, et ici, plus proche de nous, les sarcoptérygiens, avec en fait deux groupes qui survivent, tant bien que mal, que vous connaissez bien évidemment, qui sont les seulacanthimorphes, donc le seulacanthe. C'est tout de même assez difficile d'imaginer une animalerie dans un institut, une animalerie de seulacanthes pour pouvoir obtenir des œufs, etc. Et puis d'autre côté, les dipneustes, donc les seulacanthes ici, voilà. De notre côté, les dipneustes, qui sont les poissons à poumons, donc les ceratodontimorphes. Et il y a deux études qui ont été faites sur ces poissons à poumons, en particulier sur Neoceratodus forsteri, qui est le poisson à poumons australien. Alors pourquoi ? Ben c'est assez simple, c'est que, en fait, l'Australie a un programme d'essayer de réintroduire, de maintenir ces poissons, et donc il y a des instituts spécialisés qui essaient de reproduire ces poissons, et parfois, si vous connaissez les bonnes personnes, vous pouvez obtenir quelques embryons ici et là, et faire quelques expériences. Alors, la première publication, une publication du laboratoire d'Axel Meyer, un travail de Jost Voltering, et vous voyez ici la raison pour laquelle ils essayent d'utiliser ces embryons. Ils disent ici, nous utilisons le poisson australien à poumons, le dipneuste australien, parce que c'est le seul poisson sarcoptérygien disponible avec lequel on peut essayer d'apprendre quelque chose. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a que celui-ci. Neoceratodus fosteri, c'est un poisson qui vient du Queensland, cette province de l'Australie, qui est absolument fascinant, puisqu'il a une sorte de vessie natatoire. Alors, vous savez que les poissons, les téléostéens, les poissons osseux ont une vessie natatoire, qui est une sorte de poche gazeuse qui est branchée sur l'œsophage. Et les poissons utilisent cette poche pour ajuster leur niveau de flottement. Hein. S'ils vident un peu la poche, ils vont descendre. C'est une poche gazeuse, hein. C'est pas uniquement de l'oxygène. Et donc, avec ça, ils règlent leur niveau de déplacement dans l'eau. Chez le poisson à poumon australien, cette vessie natatoire est un peu partie d'un autre côté pendant l'évolution. Elle est aussi branchée sur l'œsophage, sauf que c'est un poisson qui a à la fois des branchies, donc qui peut métaboliser l'oxygène de l'eau, mais avec une transformation de cette vessie en poumon, ce qui fait que ce poisson est capable de vivre dans la boue, en cas de sécheresse, à l'air libre. Donc c'est un poisson qui a toujours été considéré comme étant en quelque sorte un peu mixte entre dans cette montée vers les amniotes, vers les vertébrés tétrapodes, en tout cas qui illustre une des façons possibles de pouvoir s'affranchir du milieu aquatique et de rentrer dans le milieu terrestre. Les poissons cartilagineux n'ont pas de vessie natatoire. Et en fait, c'est pour cette raison que les requins ne peuvent pas s'arrêter de nager. C'est assez curieux, mais si un requin s'arrête de nager, il coule. Et donc les requins sont constamment obligés de nager pour pouvoir garder un niveau de flottabilité parce qu'ils n'ont pas de vessie natatoire. Alors, ces poissons à poumons, le génome a été séquencé récemment par un consortium de plusieurs laboratoires. C'est un génome absolument énorme, puisqu'il est de 43 fois 10 puissance 9 paires de bases, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de fois plus complexe, plus grand que le nôtre. Alors, je vous passe les détails. Pourquoi c'est comme ça? Il y a beaucoup d'éléments répétés, les gènes sont très très grands. Mais ce qui est intéressant, c'est que la synténie générale, c'est-à-dire non pas la présence de gènes. Si vous regardez un gène, par exemple le gène, peu importe, Sonic Hedgehog dont on a parlé, eh bien vous allez bien entendu le retrouver chez le poisson à poumon. Mais la synténie générale est beaucoup mieux conservée que chez les autres poissons. C'est-à-dire que vous allez trouver non seulement le gène Hedgehog, mais vous trouverez à côté les mêmes gènes qui sont à côté de ce gène chez nous. Donc il y a des portions de chromosomes qui sont conservées. Non seulement les gènes, mais des grandes portions de chromosomes. Et puis une autre caractéristique de ce génome qui est très intéressante, ça je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est plusieurs traits qui ressemblent à une sorte de préadaptation. C'est-à-dire qu'il y a des traits chez nous, par exemple, qui touchent à nos téguments, les ongles, les poils, les choses comme ça. Et on remarque chez le poisson des chaînes, la présence de gènes, la façon dont ils sont exprimés dans le poisson à poumon, qui ne sont pas homologues. Les poissons, ils n'ont pas de poils. Mais qui semblent être là comme une sorte de préadaptation. On s'est dit, ben voilà, avec ça, ça a peut-être été plus facile pour ce genre de poisson de sortir de l'eau. Alors, à quoi ressemble la nageoire? C'est une nageoire qui ressemble beaucoup aux nageoires sarcoptérygiennes que je vous ai, sur lesquelles on a passé pas mal de temps, la première leçon. C'est ce qu'on appelle une nageoire pédonculée, en anglais un lobe fin fish, hein, parce qu'elle est articulée sur la ceinture scapulaire par un pédoncule, par un os. Souvenez-vous, toutes les structures de nageoires que je vous ai montrées précédemment, de poissons vivants, cartilagineux, osseux, peu importe, il y a toujours soit un plateau, soit des rayons, soit des radios, excusez-moi, des radios, ou un plateau cartilagineux, mais là, on passe à une structure de nageoire pédonculée, donc qui vraiment commence à ressembler à un membre tétrapode dans le sens où on a une articulation unique. Cette articulation, elle est suivie par toute une série de pièces osseuses, et souvenez-vous, ces pièces osseuses, lorsque l'on parle de la région proximale vers la région distale, forment un axe qui est un axe droit, qu'on appelle l'axe métaptérygien. On en a discuté brièvement, et je vais revenir dessus en fin de cours, dans quelques minutes, l'axe métaptérygien. Comment est-ce possible d'assigner une homologie à cet os ici, l'humérus, le radius cubitus à celui-ci? En fait, pour voir ça d'un peu plus près, il faut, comme d'habitude, remonter au développement et regarder comment ces nageoires se développent. Et là, on s'aperçoit qu'on commence à voir des choses qui ne sont pas celles qu'on a vues avec des membres amniotes, mais qui ressemblent tout de même un peu plus que ce qu'on a vu avec des membres des nageoires de poissons téléostéens. Par exemple, vous voyez qu'on va développer cet axe métaptérygial ici avec un grand cartilage qui va se condenser d'une façon séquentielle. Hein, d'une façon séquentielle. Chez les poissons osseux, souvenez-vous, ce n'était pas le cas. On avait ce plateau cartilagineux qui se segmentait en os, qui s'ossifiait, et on avait des radios. Ici, on commence à avoir une progression séquentielle, avec d'abord formation des pièces proximales, puis ensuite des pièces distales. Quand vous regardez ici ce stade intermédiaire, cette pièce-là va être définie comme l'humérus, puisqu'elle articule avec la ceinture scapulaire. Vous voyez qu'ici, il y a deux pièces, en fait. Une pièce postérieure, post-axiale, postérieure, qui va donc être qualifiée de cubitus, d'ulna, et puis la pièce antérieure, pré-axiale, de radius. Quand vous regardez dans le squelette terminé, on voit que ces deux pièces-là vont fusionner. On le voit ici, elles commencent à fusionner. Et puis lorsque je vous remontre là, voilà, cette nageoire terminée, on voit ici que ça fait un os simple. Donc lorsque l'on regarde ça, on pourrait se dire, mais où est le radius, où est le cubitus? En fait, il faut vraiment remonter. Lorsque l'on remonte, on voit qu'il y a deux pièces qui se séparent d'une façon qui n'est pas comparable, mais qui rappelle en quelque sorte la production des premières pièces osseuses dans le membre chirydien. Alors voilà, ça c'est le développement de cette nageoire, et les auteurs vont donc reposer cette question d'une façon extrêmement simple cette fois. La suivante, avec ce schéma, on a donc un humérus, c'est bien. On a un radius, un ulna, on a ici un radius, un ulna, c'est bien. Là, c'est absolument clair. Que se passe-t-il dans la région plus distale? Est-ce que cette région-là, maintenant, va être homologue au sens des quatre niveaux d'homologie qu'on a définis, avec cette partie-là, vous voyez ce point d'interrogation. C'est une publication qui date de 2020, donc c'est des gens qui ont eu le temps de consulter vraiment la littérature, et vous voyez que de façon intéressante, la nageoire des actinoptérygiens, donc du poisson zèbre que vous avez là, des poissons téléostéens, eh bien, il n'y a pas tellement de couleurs. Donc on voit que même après 15 ans, pratiquement 20 ans d'études sur ces nageoires de téléostéens, avec des interprétations très variées qu'on a discutées, eh bien, dans ces schémas récapitulatifs, vous voyez, radial, radio ici, avec une flèche, on ne sait pas exactement où arrive ce trait ici. Donc certainement, on n'assimile pas dans cette publication les radios des téléostéens, soit à l'humérus, soit au radius, ulna, etc. Voilà. Alors, évidemment, très peu d'embryons à disposition, très peu au bon stade, donc très difficile d'obtenir des suites de stades de développement, mais tout de même, une étude qui est relativement complète pour la difficulté du matériel. Et ces gens vont regarder, ces collègues vont donc regarder une fois de plus l'expression de certains gènes marqueurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire avec ces spécimens. Et ils vont observer la chose suivante. Premièrement, phase précoce, tous ces gènes OX sont exprimés, on a là numéro 11, les autres seraient pareils, pratiquement exactement comme chez le poisson zèbre, comme chez les téléostéens, comme chez les amniotes, comme dans le membre chirydien. Donc, démarrage dans la partie post-axiale, postérieure, et puis on envahit la partie distale. Souvenez-vous, je vous ai montré ça avec le poisson zèbre, je vous montrerai une image dans quelques minutes. C'est pratiquement identique. Lorsqu'ils regardent le stade plus tardif, ils voient cependant que le gène OXA11, qui normalement devrait être restreint au domaine proximal, souvenez-vous, je viens de vous en parler, en fait remonte jusqu'à la partie la plus distale. D'accord. Par contre, il y a une limite ici qui correspond à la limite entre l'humérus et le radius. Donc c'est un des premiers points qu'ils présentent pour dire les gènes numéro 11 ne se trouvent pas dans la région de l'humérus, donc c'est un vrai humérus. Parce qu'évidemment, si vous avez des gènes qui fabriquent le radius et le cubitus qui sont actifs dans la région de l'humérus, on peut de nouveau se poser la question, mais alors est-ce que ce ne serait pas l'humérus, un radius, un cubitus, basé sur l'expression de ces gènes? Et ce n'est pas le cas. Et puis, ils regardent un deuxième gène qui est très intéressant, qui s'appelle MIS1, peu importe. mais qui chez nous, chez les tétrapodes, dans le membre chirridien, est toujours restreint à la partie la plus proximale, exactement comme vous le voyez ici pour le poisson à poumon, restreint dans la partie proximale. Seulement, au stade plus tardif, on voit que l'expression va s'étendre et remonter jusqu'à la partie la plus distale, exactement comme c'est le cas pour ce gène OXA11. Donc là encore, il semble qu'il y ait une sorte de proximalisation de toute la structure. Ça démarre bien, ça fait la partie proximale, mais plutôt que d'arrêter et de commencer à fabriquer une partie distale, on va étendre cette partie proximale. Alors il y a un autre groupe qui... Je vais revenir sur cette étude dans 3 minutes, mais avant, il y a un autre groupe qui, en 2018, donc 2 ans auparavant, c'est en fait un des auteurs de cette publication, qui va regarder également l'expression de ces gènes dans quelques embryons. Et voilà donc le résumé qu'il propose, avec en jaune la partie la plus proximale, l'humérus, en magenta, radius cubitus, et comme je viens de vous le dire, ça s'étend jusqu'à la partie la plus distale, donc on a ici une incertitude, on va avoir un mélange de jaune, de rouge, on ne sait pas trop ce que c'est. Et ces auteurs vont conclure ici qu'en termes d'expression de gènes OX, donc ils font bien le distinguo, hein, si on utilise ces gènes comme gènes marqueurs, eh bien, Neoceratodus forsteri peut être considéré comme n'ayant pas d'autopode, donc pas de main, puisqu'on a une extension de cette partie proximale. Donc ça, c'est en 2018. Alors maintenant, revenons. En passant, je vous montre ici quelque chose de fort intéressant, en fait. Vous voyez, ces auteurs se disent peut-être, en fait, peut-être que l'expression de ce gène MIS, qui n'est pas restreint à cette partie proximale, bien, peut-être que c'est une synapomorphie des dipneustes. Une apomorphie des dipneustes. Une apomorphie, c'est un caractère qui est essentiellement lié à un taxon, à une espèce, à un groupe d'animaux. Et c'est très curieux, parce qu'on a ici pratiquement une sorte de rupture épistémologique, où on dit on va utiliser l'expression d'un gène comme marqueur de la région proximale. Et puis, on arrive à la conclusion que ce gène n'est pas restreint à la partie proximale. Et donc on dit, oui, bah c'est peut-être une apomorphie, c'est-à-dire il n'y a que chez le poisson à poumon que ce gène n'est pas un marqueur de l'expression proximale. Donc en fait, c'est un raisonnement qui est en boucle, et qui est parfois difficile à comprendre. Alors, 2020, conclusion de l'autre étude, qui comporte le même auteur, on a ici l'expression, le travail avec ces poissons poumons australiens. Nous vous montrons que l'organisation d'un domaine qui ressemble à l'autopode pendant le développement de la nageoire pédonculée du poisson à poumon. Conclusion en 2008, le poisson à poumon n'a pas d'autopode. Conclusion en 2020, le poisson à poumon a un domaine qui ressemble à un autopode. Alors, c'est compréhensible, hein, on a discuté de ça la semaine passée. Encore une fois, ce sont des systèmes qui sont peu informatifs dans le sens où il y a peu d'embryons à disposition, il y a des paramètres très variables. Mais là, on a vraiment une conclusion qui est très différente. Et laissez-moi vous montrer en quelques minutes comment ces auteurs arrivent à cette conclusion opposée à celle du papier de 2018. Ces auteurs, ils vont remarquer une chose, c'est qu'il y a une différence entre l'expression des gènes A13 et l'expression des gènes D13. Et je vous montre ici une nageoire avec l'expression du gène A13, où vous voyez que ce gène, qui n'est pas dans la partie de l'humérus, donc ça c'est attendu, va être exprimé dans toute la partie qui va devenir la partie osseuse, hein, toute cette partie-là, jusque dans la, partie la plus distale, ça c'est normal, puisque c'est le gène 13, donc c'est normal qu'il remonte jusque dans la partie la plus distale. En jaune ici, vous avez l'actinodine, pour montrer la position du squelette dermique. Mais vous voyez ici que lorsque l'on regarde D13, il semble que ce gène, l'expression de ce gène est restreinte aux cellules qui se trouvent uniquement d'un côté de la nageoire, ce qu'on appelle la partie post-axiale. Donc souvenez-vous, si vous regardez votre bras, c'est la partie postérieure, la partie qui est en dessous, dans la région post-axiale. Et en fait, le gène numéro 11 montre une tendance qui est très similaire à celle de OXD13. Et donc, ces auteurs vont dire peut-être qu'il y a deux fonctions différentes. Il y a une fonction pour le gène A13 qui va définir un grand domaine distal, donc une fonction d'ordre topologique. Hein. Ce n'est pas faire des doigts, mais c'est nous sommes dans un domaine distal. Et puis, une fonction pour les gènes D13, qui, eux, vont être plus spécifiques et vont remonter ces doigts de la partie post-axiale vers la partie distale. Autrement dit, ils vont faire cette courbure de l'axe métaptérygien dont nous avons discuté à la troisième leçon. Souvenez-vous, je vous disais que c'est un phénomène qui pourrait... On aurait des rayons dans la partie post-axiale, et en fait, ce qui se serait passé lors de la transition, c'est une sorte de remontée de ces rayons pour faire des doigts, donc on aurait un axe métaptérygial qui serait courbé dans le membre chiridien, donc chez les tétrapodes. Mais une grande partie de cette explication, elle est basée sur le fait qu'on a cette expression asymétrique ici. Or, en fait, souvenez-vous, cette expression asymétrique, on l'a chez le poisson zèbre, on l'a chez les poissons téléostéens. Je vous ai montré à plusieurs reprises ces expressions ici. Regardez le gène 13, là, on voit bien qu'il est restreint à la partie post-axiale, à la partie postérieure. Donc, ce n'est pas du tout spécifique aux poissons à poumons. C'est spécifique pratiquement à l'expression de ce gène dans son domaine proximal. Dès qu'on rentre dans la partie distale, on commence à avoir une expression qui va couvrir le domaine où les doigts vont apparaître. Et pour essayer de détailler leur hypothèse, les auteurs vont donc analyser l'expression d'autres gènes. C'est un travail intéressant parce que, encore une fois, c'est vraiment une expédition en fait de travailler avec ces embryons, parce qu'on sait que si on fait une erreur, il n'y en aura plus, il y a un nombre très restreint. Et vous voyez qu'ils vont choisir quelques gènes pour leur asymétrie dans l'expression. Par exemple, ce gène HEND2 est exprimé uniquement dans la région postérieure. Ce gène ALX4 est exprimé uniquement dans la région antérieure, comme ce gène PAX6. Quand je dis qu'ils sont exprimés uniquement dans la région postérieure ou antérieure, c'est dans le membre chiridien, chez les tétrapodes, chez nous, chez moi, chez vous. Or là, on trouve la même expression pendant le développement de la nageoire pectorale du poisson à poumons. Et donc ça renforce les auteurs dans leur idée de dire, ben voilà, on a vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup au développement du membre chiridien. Oui, sauf que, en fait, si l'on regarde l'expression de ces gènes dans d'autres poissons qui ne sont pas des poissons à poumons, il y a très peu de travaux là-dessus, mais il y a un article très intéressant du groupe de Frank Tolenko, on en a déjà parlé quelques fois. Eh bien, en fait, on voit que ces gènes sont exprimés de la même façon. Vous voyez ici ce gène HEN2, il est postérieur, alors que le gène ALX4, il est antérieur. Donc on a des stratégies d'expression de ces gènes qui sont très stables, que l'on soit chez des poissons osseux ou chez des poissons à poumons. Donc, en fait, c'est vrai que, basé sur la sorte d'universalité de ces patrons d'expression, c'est difficile, semble-t-il, de tirer une conclusion sur l'existence d'un domaine distal. Alors, la conclusion est la suivante, des auteurs, qui auraient une première spécification d'un domaine distal. Ne lisez pas ce texte. Mais, donc, A13 définirait en gros un domaine distal, et puis D13 viendrait pour pousser cette rotation de l'axe métapterygial, qui en fait serait visible chez nous. Souvenez-vous, lorsque je vous présentais la dynamique de condensation des cartilages dans l'étude vraiment intéressante de Neil Shubin et de Perret Alberge, où on voyait ces cartilages qui se condensaient, qui se séparaient, qui se recondensaient, qui se séparaient, eh bien, souvenez-vous, vers la fin, on avait ce tournant vers la gauche, ce tournant vers la partie antérieure. Hein. Donc, peut-être une correspondance. Mais, encore une fois, dans aucun cas d'expression d'aucun gène, utilisé en tout cas dans le cas du poisson à poumon, ces auteurs ne trouvent la présence de deux domaines concomitants qui pourraient dire, voilà, là on a une partie postérieure, là on a une partie proximale, excusez-moi, là on a une partie distale. C'est de cette partie distale que l'équivalent d'un autopode devrait sortir. Alors ces auteurs finissent avec voilà, ce schéma où l'on a ici le membre chirydien, où l'on a ici la nageoire du poisson à poumon, avec une vue de A13, donc une définition d'un domaine distal. Et puis en dessous, vous avez la vue de D13, avec ici la fabrication des doigts, et puis là, toute cette partie post-axiale, où l'on voit en bleu ici ces rayons qui plus tard pourraient devenir des doigts, hein, en remontant, en recourbant cet axe métapterygial. Alors, je pense que c'est une explication qui est possible. C'est une explication qui est possible. Il n'y a rien vraiment dans cette publication qui... On pourrait dire, non, c'est pas possible, il y a une erreur. Donc, c'est une hypothèse qu'il faut continuer à analyser. Mais je pense que l'alternative de la publication, de la première publication de 2018 que je vous ai montrée, certainement pas à exclure a priori, c'est-à-dire le fait que ces poissons qui ont des nageoires de lobe fine, c'est simplement un premier domaine proximal chez nous qui s'étend et qui reste en fait avec une identité proximale. Ces poissons auraient une sorte d'addition de pièces osseuses proximales qui s'empileraient les unes sur les autres, sans que jamais il y ait cette transition vraiment critique entre la partie proximale et la partie distale. Alors comment est-ce qu'on peut analyser d'une façon différente si cette transition existe? Peut-être qu'on ne la voit pas, mais peut-être existe-t-elle. Et là, on rentre dans ce dernier niveau d'homologie, niveau avec lequel j'aimerais terminer ce cours. Alors, souvenez-vous, je l'avais qualifié d'homologie ontologique parce que finalement, lorsqu'on commence à toucher à la régulation d'expression de ces gènes, il n'y a pas grand-chose d'autre après à aller voir. Si on trouve des motifs, si on trouve des structures dans l'ADN, dans la chromatine, qui sont responsables d'un trait de régulation, et que ces structures se retrouvent dans des espèces différentes, là, on peut raisonnablement penser que vraiment il y a une correspondance, mais on ne peut pas aller vraiment plus profond. On peut pas aller. L'ADN, il est homologue, on le sait. Je veux dire, tous les animaux partagent le même ADN. Donc on est vraiment à un niveau de considération de la notion d'homologie qui est le plus profond possible. Et c'est donc cette dernière possibilité ici. Et pour comprendre ce que je veux dire par là, je dois retourner à quelque chose qui a fait l'objet du cours d'il y a 2 ans, 2020, et dont je vous ai déjà parlé il y a 2 semaines, qui est cette notion d'enhancer et de régulation des gènes. Alors, j'essaie de faire ça simplement, parce que, mais il faut tout de même essayer de revenir un tout petit peu sur les technologies à disposition. Donc l'idée est la suivante. Lorsque l'on regarde une fois de plus, prenez cette image-là, lorsque l'on regarde une fois de plus ce domaine proximal, donc qui va donner le radius et le cubitus, ce domaine distal qui va donner les doigts, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces domaines, comment ces cellules savent qu'elles doivent activer ces gènes à ces endroits-là, donc comment ces expressions sont régulées. Qu'est-ce qui fait que ces gènes sont activés? Qu'est-ce qui fait que les gènes 11 sont activés dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui fait que les gènes 13 ne sont activés que dans ce domaine-là? C'est ça la question que l'on se pose. Alors, généralement, ces gènes sont activés, je vous l'ai dit, par des séquences d'ADN, au travers de protéines qui vont se lier à ces séquences, qu'on appelle des séquences enhancer. Et je vous avais montré cette image, qui est vraiment une image simple, mais probablement assez correcte, où l'on a ici un gène X, peu importe lequel, un grand morceau d'ADN, et là je vous parle vraiment d'un grand morceau, ça peut aller jusqu'à une mégabase, un million de paires de bases, on est vraiment dans des grandes distances. Et puis toutes ces petites barres que vous voyez là sont en fait des séquences de régulation qui vont contrôler l'expression de ce gène. Donc par exemple dans le cerveau, vous voyez ici en bleu, eh bien ce gène va être contrôlé par ces séquences. Dans le tube neural, ici, ce gène va être... etc., etc. Évidemment, ça pose une question qui a été une question assez lancinante pendant plusieurs années. C'est comment une séquence qui se trouve vraiment loin, vraiment très éloignée du gène, peut communiquer avec ce gène? Comment un morceau d'ADN qui se trouve à une mégabase d'un gène peut-elle dire à ce gène, à un moment donné, il faut activer, il faut s'arrêter, il faut faire plus, il faut faire moins? Et la réponse à cette question, en fait, est simple. C'est que cette séquence-là, à un moment donné, va être en contact avec le gène, va établir un contact physique. Évidemment, quand vous regardez cette image, on a une fausse perception de la structure de ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, parce qu'on a l'impression que c'est droit, mais c'est une représentation linéaire qui n'existe pas. En fait, dans le noyau, la chromatine, c'est une pelote de laine extrêmement serrée qui est faite de sous-pelotes qui elles-mêmes sont faites de sous-pelotes hein, pour pouvoir mettre ces à peu près 2 mètres d'ADN dans le noyau d'une cellule qui est en dessous, qui est pratiquement de l'ordre de 3-4 microns. N'est-ce pas ? Donc, il faut imaginer un repliement et un repliement de repliement. Quand vous avez ce type de repliement, vous avez des chances d'avoir des contacts. Alors, comment peut-on voir ces contacts? Comment aujourd'hui, les biologistes moléculaires, dans leur laboratoire, peuvent observer ces contacts? Bien, c'est assez simple, en fait. C'est une technologie qui a été développée par un collègue qui s'appelle Job Decker. Et en fait, il faut vous imaginer, imaginez-vous que vous avez deux morceaux d'ADN ici. Alors, ça peut être du même chromosome, je les ai mis en rouge et en bleu pour faciliter l'explication, mais deux morceaux d'ADN, ça peut être des chromosomes différents aussi, avec ici un gène, et ici une séquence enhancer. Donc, c'est une petite séquence d'ADN avec des protéines qui va dire à ce gène, maintenant, il faut s'activer. Bon. Si vous prenez une cellule... Vous prenez des milliers de cellules, des millions de cellules, et puis vous fixez cette interaction. Donc vous y mettez un produit chimique qui va en fait stabiliser cette interaction. Parce qu'évidemment, dans la vraie vie, ça va être très dynamique, ça va venir, ça va partir, ça va aller ailleurs, etc. Là, on fixe l'interaction. Et puis, donc c'est représenté ici par ce petit cercle gris, et puis une fois que cette interaction est fixée, eh bien, on va couper, on va débiter littéralement cet ADN en petits morceaux. Alors on peut le faire avec de la sonication, on peut le faire avec des produits chimiques, des enzymes de restriction, peu importe. On va simplement couper l'ADN dans des petits morceaux et on va donc avoir ces petits morceaux-là, des petits morceaux, etc. Ici, on va rester avec un morceau qui aura à la fois un morceau rouge et un morceau bleu puisque c'est fixé, les contacts sont fixés. D'accord ? Donc en fait, on va avoir deux petits brins d'ADN qui vont rester ensemble. Et ce qu'on va faire à partir de là, on va religuer, on va mettre de la colle. Donc on va recoller les morceaux. Alors imaginez un morceau ici qui va flotter quelque part. Sa probabilité d'être collé à ce morceau-là, elle est très basse. Parce qu'évidemment, ces morceaux vont flotter dans... On peut ajuster des concentrations, etc. Mais la probabilité est très basse. Alors que ces morceaux-là, ici, La probabilité est très haute, parce qu'ils sont ensemble. Donc très rapidement, ces deux morceaux-là, le morceau rouge et le morceau bleu, vont se recoller ensemble, puisqu'ils sont dans un environnement très proche l'un de l'autre. D'accord ? Donc ça va faire cette petite boucle. Quand vous séquencez toutes ces petites boucles, eh bien vous allez ici avoir une séquence d'ADN bleu, ici, et puis une séquence d'ADN rouge, ici. Donc vous allez savoir que ce morceau bleu était en contact avec ce morceau rouge. Alors ce n'est pas vraiment utile de comprendre les détails de l'opération, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet d'avoir une vue, une moyenne des contacts. Parce qu'évidemment, on fait ça avec un million de cellules, donc on ne sait pas si ce qu'on voit, on le voit dans chacune des cellules, mais on a une moyenne des contacts qu'on va avoir, soit dans tout le génome, ça demande énormément de séquençage, soit à un locus précis. Alors je vous montre le résultat. Quand on prend toutes ces séquences, etc., on met ça dans un logiciel, eh bien, on voit des pyramides. Là, c'est la vraie vie, en fait. Vous voyez à quoi ça ressemble sur un écran d'ordinateur. Et ça, c'est des pyramides. Et ces pyramides, en fait, représentent des domaines d'interaction. Vous voyez ce bin ici, ce pixel, en fait, il représente ce morceau d'ADN. Donc là, vous avez l'ADN. Ce morceau d'ADN qui contacte ce morceau d'ADN. Donc quand vous avez un contact entre ce morceau et ce morceau, vous avez beaucoup de séquences où vous allez avoir les deux, ça vous allume un pixel. D'accord ? Mais vous voyez que ce morceau-là ne contacte jamais ce morceau-là, parce qu'on devrait avoir un pixel par là. Donc il y a des contacts qui sont permis et des contacts qui sont exclus. Et ça, c'est une découverte qui a été faite par essentiellement trois laboratoires en 2012, donc le laboratoire de Bing Ren en Californie, de Giacomo Cavalli et le laboratoire d'Edith Hurt, ma collègue ici au collège. Et je pense que si vous remontez sur ces cours, vous aurez tous les détails sur ces interactions. En fait, ces triangles, ces pyramides, ils illustrent des globules. Et je vous ai mis ici un... Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez en fait une pelote d'ADN avec des gènes, des séquences de régulation. Et puis vous avez une autre pelote, et puis vous avez une troisième pelote. Mais ces pelotes ne se contactent pas l'une et l'autre, parce qu'on n'a pas ici de pixels qui s'allument. Donc on voit très bien ici un niveau d'enroulement des chromosomes. C'est un des nombreux niveaux. On a des niveaux qui sont plus petits, et on a des niveaux qui sont plus grands. On a des niveaux d'enroulement de pelotes, ou de sous-enroulement de pelotes. Ça, c'est un enroulement qui est très important, parce que, disons, c'est l'enroulement majeur qui régule la façon dont des séquences de régulation vont toucher des gènes. Évidemment, très souvent, vous n'avez pas du tout envie que cette séquence ici ait touché ce gène-là, parce que ça peut vous déclencher l'expression de quelque chose que vous ne souhaitez pas. Donc l'évolution a compartimentalisé le génome de façon à ce que chacun ait son petit domaine un peu privé dans lequel les choses peuvent se passer, se contacter, mais on ne sort pas de ce domaine, parce qu'autrement ça devient dangereux. Voilà, alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que quand vous regardez ces gènes OXD qui font ces deux domaines dans le membre proximal et distal, eh bien, on s'aperçoit qu'on a cette situation-là. Ce que vous voyez là, c'est le complexe OXD. Ce sont les gènes OXD. Pour ceux d'entre vous qui ont une idée des distances, des tailles, c'est à peu près une centaine de kilobases. Donc vous voyez que ces deux pyramides ici, de part et d'autre, sont des pyramides qui font presque une mégabase. Donc c'est vraiment des grands domaines. Mais vous voyez curieusement que ce cluster, ce groupe de gènes, n'est ni entièrement dans cette pyramide, ni entièrement dans cette pyramide. En fait, il fait la limite entre ces deux pyramides. Autrement dit, des séquences de régulation qui se trouvent dans cette partie-là vont allumer des gènes qui se trouvent dans cette partie-là. Et puis des séquences de régulation qui se trouvent dans cette partie-là vont allumer, en fait, essentiellement ce gène-là que vous voyez en noir, qui est le gène numéro 13. D'accord ? Alors, comment est-ce que l'on traduit ça pendant le développement du membre ? Eh bien, vous voyez ici, c'est une étude de Guillaume André, et en fait, vous voyez ce qui se passe. Vous avez là, pendant la phase précoce, pendant que vous poussez le bourgeon, hein, la première phase qu'on a qualifiée de phase proximale, précoce, qui existe chez le poisson, etc., eh bien, vous avez toutes ces séquences de régulation ici qui travaillent et qui ciblent les gènes jusqu'au gène numéro 11, qui sont là, qui sont de ce côté. D'accord ? Donc, vous imaginez toutes ces interactions sur cette partie du cluster, etc. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, cette régulation s'arrête et celle-ci commence. Et là, vous avez encore toute une série de séquences de régulation qui vont activer le gène 13 qui est en bordure ici. Donc on a en fait une régulation bimodale avec d'un côté des séquences de régulation qui vont activer les gènes nécessaires pour faire la partie proximale, et puis à un moment donné ça s'arrête, ça va basculer de l'autre côté, l'autre pyramide, ou TAD dans le jargon, l'autre pyramide va activer ses séquences de régulation et vont commencer à dire au numéro 13, maintenant, au travail, il faut faire la partie distale. Alors, quand vous regardez ce schéma, en fait, il y a deux choses qui viennent tout de suite à l'esprit. Donc, en fait, je vous ai mis un résumé ici. D'abord, cette partie-là qui va activer ici, puis ensuite, cette partie-là qui va activer là. Et on a donc là une spécificité proximale, et là, une spécificité distale. Quand vous regardez ça, en fait, il y a deux choses qui viennent immédiatement à l'esprit. Si vous avez une pensée évolutive, on peut se dire, ben, c'est assez simple, on va aller voir chez les poissons si effectivement ils ont ces deux types de régulation. S'il y a quelque chose qui correspond à cette phase distale, à ce deuxième temps où on va produire l'autopode. Mais vous voyez aussi une chose qui est très intéressante et dont je vous ai déjà parlé, c'est que ces deux domaines n'abutent pas, en fait. Il y a une région entre ces deux domaines qui est négative. Et je vous l'ai montré ici, c'est cette région-là. Vous voyez cette bande blanche ici qui est négative. Et je vous en avais déjà parlé, mais ces gènes OX sont entre autres responsables de l'élongation des pièces osseuses. Quand vous n'avez pas de fonction de ces gènes OX, vous n'allongez pas vos pièces osseuses, vous avez des petits os mal fichus, c'est le poignet. Et donc, si on pense à un système dans lequel on ne se serait basé que sur cette région ici pour activer tous les gènes OX, on aurait eu un continuum jusqu'au gène numéro 13, on n'aurait pas eu de poignet. D'accord ? Donc, en fait, l'élaboration d'un deuxième domaine distal a non seulement permis l'émergence des pièces distales, des pièces osseuses distales, mais en plus, en le déconnectant de la partie proximale, l'évolution a pu créer un domaine qui est négatif, qui a fait l'articulation. Donc, en même temps, de façon concomitante, l'émergence de la partie distale et de son articulation, ça, c'est une solution qui était probablement extrêmement avantageuse, puisque si vous imaginez l'émergence de pièces osseuses distales pour des animaux qui vont essayer de sortir du milieu aquatique pour coloniser le milieu terrestre, sans articulation, ça devient extrêmement difficile. Vous ne pouvez faire que des mouvements assez restreints. Alors, est-ce que ces domaines existent finalement chez les poissons ? Voilà, j'aimerais terminer le cours avec cela. D'abord, la première étude qui a été publiée dans cette optique, c'est une étude qui ne touche pas les poissons, mais qui touche les animaux qui sont à l'origine, qui sont les ancêtres des vertébrés, donc les ancêtres à la fois des poissons et des tétrapodes, qui sont des céphalochordés, donc des chordés, qui ont une corde. Hein. Souvenez-vous, on a défini ce que c'était que la corde au moment où on a parlé des tuniciés, des urochordés, vous avez là, Céphalochordés sont représentés en recherche par un animal qui s'appelle le lancelet, l'amphioxus, un petit animal qui a été bien étudié. Je ne dirais pas vraiment que c'est... Je ne dirais pas vraiment que c'est un système modèle dans lequel on peut faire beaucoup de choses, de manipulation génétique, etc. Mais c'est un animal qui a été beaucoup étudié parce que c'est une structure génomique qui représente l'avant-duplication génomique. Donc vous voyez ici, l'amphioxus, céphalochordé, en fait, a un seul complexe de gène Hox. Donc c'est une situation, c'était la situation... avant d'entamer ce chemin vers les vertébrés, où il y a eu ces deux duplications successives. Donc on a toute une série de gènes qui ressemblent à nos complexes, sauf qu'il y en a un tout petit peu plus. Et puis ensuite, souvenez-vous, chez les vertébrés amniotes, deux duplications, et puis chez le poisson, les téléostéens, alors des duplications supplémentaires, encore d'autres duplications supplémentaires, chez le saumon par exemple, qui a encore dupliqué le cycloster, peu importe. Voilà. Alors, ce groupe de Garcia Fernandez a décidé de regarder, en utilisant une méthode un tout petit peu différente, mais peu importe, je vous passe les détails, de regarder comment ces contacts, comment ces interactions étaient établies chez l'amphioxus. Et en fait, quand ils ont regardé ça, voilà ce qu'ils voient. Vous avez ici sur la gauche des quatre gènes, un gène qui est au début du cluster, donc qui correspond au gène numéro 1, 2, 3, etc. Et puis ce gène 15, parce que chez l'amphioxus, il y a 15 gènes Hox, qui est à l'autre bout du cluster. Et ce que vous voyez ici en rouge et en bleu, c'est en fait les interactions de chacun de ces quatre gènes, soit avec la gauche, soit avec la droite. Donc soit j'interagis de ce côté-là, soit j'interagis de ce côté-là. Souvenez-vous, chez la souris, ce que je viens de vous montrer, on aurait toutes les interactions du gène numéro 1 d'un côté et toutes les interactions du gène numéro 13 de l'autre côté, parce qu'il y a cette frontière où on ne peut pas. D'accord ? Eh bien, vous voyez que chez l'amphioxus, c'est un peu différent. Le gène numéro 2, il contacte 75%, 25%, donc il contacte à la fois à droite et à gauche. Le gène numéro 6, ben, c'est pratiquement 50-50. Vous voyez que même le gène numéro 15 contacte 74% de ce côté, mais presque 30% de l'autre côté. C'est complètement différent de la situation chez la souris que je viens de vous montrer. Et donc ces auteurs vont répéter cette analyse, mais cette fois chez le poisson zèbre. La question est, lorsque je prends un cluster du poisson zèbre impliqué dans le développement des nageoires, est-ce que la distribution des contacts va être similaire? Et le résultat, en fait, est assez différent. Vous voyez que là, quand ils prennent le gène numéro 4, il y a 80%, 87% d'interaction d'un côté et très peu de l'autre. Donc là, ça commence à ressembler, en fait, à la situation chez les mammifères, chez les amniotes. Et quand vous prenez le gène numéro 13, eh bien vous voyez qu'il y a 77% d'interaction de l'autre côté et 23% d'interaction de ce côté. Donc là, on a vraiment un biais. Là, on voit qu'il y a une différence. On voit qu'il y a une interaction d'un côté et de l'autre côté. Et lorsque ces auteurs vont regarder avec ce logiciel qui produit ces pyramides, eh bien, ils vont voir la chose suivante. Alors, ici, vous ne voyez pas de pyramide parce que c'est une double pyramide, en fait. Vous voyez, il faudrait enlever toute cette partie basse ici et regarder de ce côté-là, vous verriez des pyramides, en fait. C'est une façon de représenter les résultats. Mais peu importe. Ce qui est important de voir, c'est que, ici, vous avez chez l'amphioxus, la position du cluster Hox, elle est là. Et vous voyez que tout contact avec tout, il n'y a pas de discrimination. C'est une grande pyramide qui contient tout le cluster, donc il n'y a pas d'interaction préférentielle avec la gauche, avec la droite. Donc dans l'amphioxus, le génome n'a pas encore, ou peut-être plus, hein, c'est parce qu'on ne sait pas si c'était le cas et que ça a disparu, Mais en tout cas, le génome ne montre pas cette partition entre ces deux domaines de régulation qu'on peut observer chez les amniotes. Par contre, lorsque vous regardez le poisson, vous voyez ici, ça c'est la position du cluster, et là on voit qu'on a deux pyramides. C'est assez clair. Vous voyez, il y a quelques points ici qui vous montrent qu'en fait, ce n'est pas 100%, 100%. Il y a quelques interactions qui traversent. Mais en gros, on a effectivement une régulation là et puis une régulation là. Et vous voyez ici, c'est illustré avec chez le poisson zèbre, ce gros globule ici le cluster en jaune, et puis là, ce gros globule qui s'en sépare, comme chez nous. Par contre, chez l'Amphioxus, on a un seul gros globule qui comprend tout. Alors à partir de là, ces auteurs vont proposer une sorte de schéma d'évolution de ces domaines, où on a ici, dans la lignée qui va conduire aux vertébrés, où on a une structure qui est un grand globule simple, une pelote, qui va rester une pelote chez les céphalochordés, et qui va devenir peu à peu deux pelotes séparées chez les vertébrés. Voilà, le problème, c'est ces pelotes chez le poisson zèbre. Est-ce qu'elles contiennent des éléments de régulation qui causent cette régulation bimodale? Autrement dit, est-ce qu'on va trouver ici des éléments postérieurs qui vont réguler ces gènes postérieurs? Est-ce qu'on va ici trouver des éléments antérieurs? Et est-ce que ces deux éléments vont faire cette distinction entre les domaines d'expression? Cette dernière question, on a la réponse. On sait que ce n'est pas le cas. Je vous ai abreuvé d'expression de ces gènes dans le poisson zèbre, et on ne voit jamais ces deux domaines. Donc à quoi sert cette partition chez le poisson zèbre? Comment attaquer ça d'une façon fonctionnelle? C'est là la dernière expérience que je vais vous montrer. Bien, finalement, ce n'est pas très compliqué. Il suffirait de prendre cette partie-là et puis d'essayer de l'introduire dans la souris pour voir ce qu'elle pourrait faire, pour voir si c'est plutôt proximal, plutôt distal. Le problème, c'est que cette partie chez le poisson zèbre, elle est très grande. Elle est de plusieurs centaines de kilobases. Ce n'est pas une mégabase, mais c'est plusieurs centaines de kilobases. Et il n'existe pas aujourd'hui vraiment des outils pratiques pour pouvoir introduire un fragment d'ADN de 2, 3, 4, 500 paires de bases, 500 kilobases, dans un contexte transgénique. Alors, pour pouvoir réaliser cette étude, un autre poisson a été utilisé qui n'est pas si éloigné du poisson zèbre, qui est un poisson téléostéen, bien entendu, c'est le fougou, le poisson extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle le tétraodon vert. C'est le plus petit des tétraodons. Les tétraodons, c'est les poissons faisant partie des tétraodons, ces poissons qui faire attention à les manger au Japon, qui soient préparés par des cuisiniers experts, si vous ne voulez pas être empoisonné. Des poissons qui viennent du Sri Lanka, en Indonésie. C'est des poissons qui sont assez étonnants, puisque lorsqu'ils se sentent menacés, ils gonflent et ils se mettent à une sorte de grosse bulle, ce qui les rend plus compliqués à être avalés sans doute par des prédateurs. Alors pourquoi le fougou? Vous avez ici une phylogénie qui n'est pas très intéressante. Je vous la montre uniquement pour vous montrer des belles photos de poissons lune, de baliste Picasso, qui sont vraiment des poissons magnifiques. Le tétraodon, il est là. C'est évidemment un téléostéen. Donc tout cela pour vous montrer que c'est un poisson qui n'est pas si éloigné du poisson zèbre, mais alors qu'il y a une caractéristique qui est totalement inverse de la caractéristique des poissons à poumons, à savoir d'avoir un génome qui est très petit, qui est extrêmement condensé. Pourquoi? On ne le comprend pas bien, mais vous voyez ici, encore une fois, le séquençage du génome du fougou. qui remonte à longtemps, hein, à 2004, avec une taille du génome qui est de 340 mégabases. 340 mégabases, c'est à peu près 5 fois plus petit que le génome du poisson zèbre, qui lui est en gros 2,5 fois plus petit que le nôtre. Donc c'est un génome qui est très petit, et en fait tout est petit dans le génome du fougou, c'est-à-dire que si vous avez une séquence de régulation, une pyramide qui fait une mégabase chez les amniotes, eh bien cette pyramide va faire soudainement une centaine de kilobases ou peut-être 80 kilobases chez le poisson fougou. Et là, on commence à rentrer dans des tailles que l'on peut travailler. En transgenèse, on peut avoir ce qu'on appelle des chromosomes artificiels qui, jusqu'à des tailles de 100, 150, 200 kilobases avec lesquelles on peut commencer à faire certaines choses. Et Jost Wolterink, donc, avant qu'il parte travailler à Constance, a donc pris ces morceaux d'ADN du fougou pour essayer de voir chez la souris si ces morceaux pouvaient conduire l'expression de ces gènes Hox, et si c'était le cas, est-ce que c'est une expression proximale ou une expression distale. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est la première expérience avec le cluster D. Et lorsque vous prenez toute la partie qui est en amont de D3, D4, donc la partie qui correspond à la pyramide qui fait proximale à la pyramide dans laquelle se trouvent les éléments de régulation qui régulent les gènes Hox dans le zygopode, le radius, le cubitus, l'avant-bras. Eh bien, vous voyez qu'en fait, ce morceau d'ADN de poisson va produire un peu d'expression qui est en fait dans la bonne région. Ce n'est pas une expression totale, mais c'est une indication que vraisemblablement il y a des séquences qui peuvent être actives dans la partie proximale. D'accord ? Ce que vous voyez là, c'est qu'il n'y a strictement rien dans la partie distale. Donc il semble qu'il n'y ait pas d'éléments dans cette région-là qui disent distal. Ce n'est pas inattendu puisque c'est une région qui correspond à une région régulatrice proximale. Quand vous prenez l'autre région ici, donc c'est l'autre pyramide qui se trouve de l'autre côté du cluster, eh bien vous voyez qu'essentiellement vous obtenez la même chose. Donc vous avez du proximal ici, puis vous avez du proximal ici. Et dans aucun des deux cas, on peut obtenir une expression distale. Alors quid du cluster A, puisque là je vous montre le cluster D, quid des deux clusters A. Alors voilà ce qu'on obtient lorsque l'on prend toute la partie en amont de A13, donc cette partie qui dans le cluster A chez nous contient plein d'éléments distaux, d'éléments doigts, d'éléments mains. D'accord ? Eh bien quand vous introduisez cette partie dans une souris, vous allez avoir de l'expression proximale, c'est plus ou moins clair, c'est parfois même assez douteux, mais jamais d'expression dans la partie distale. Ça, c'est pour le cluster AA. Et puis quand on prend le cluster AB, eh bien, vous voyez ici, toute cette série, c'est en fait, encore une fois, de l'expression proximale et pas d'expression distale. Donc il semble que n'importe quel morceau d'ADN que vous preniez d'un poisson téléostéen qui a ces deux globules, que vous preniez ce globule-là ou ce globule-là, cette pyramide-là ou cette pyramide-là, les séquences régulatrices qui se trouvent dans cette pyramide ou dans celle-ci, finalement, vous obtenez quelque chose qui est relativement identique de l'expression proximale. Alors ça apporte à la discussion une troisième voie, en fait, qui est de dire peut-être que chez les poissons téléostéens, la structure globale qui est nécessaire pour évoluer, cette structure bimodale est présente, mais les séquences de régulation n'ont pas encore évolué. Donc on a du proximal d'un côté et du proximal de l'autre. Et c'est en fait la discussion que vous voyez là. Donc la même organisation structurelle bimodale, j'ai traduit ici le résumé. Et puis ensuite, nous discutons la possibilité de considérer les circuits de régulation plutôt que les patrons d'expression génique comme des paramètres essentiels pour définir la présence de synapomorphie. Mais vous voyez que même l'analyse simple des interactions, des patrons d'interaction chez le poisson zèbre, nous aurait conduit à dire « oui, ces deux régulations existent ». Donc on a vraiment quelque chose d'homologue très, très profondément. Mais lorsque vous regardez la fonction de ces domaines de régulation, en fait, elle ne semble pas être conservée. Donc j'ai de la peine à imaginer un argument qui est de façon encore plus profonde pour essayer d'établir des homologies entre la partie distale du membre chirydien et n'importe quelle partie du membre ptérygien. Voilà, donc maintenant je voulais vous donner juste terminer en donnant peut-être une conclusion générale, peut-être deux types en fait, une conclusion scientifique et puis une conclusion peut-être un peu plus d'ordre épistémologique. Donc la première conclusion que je voulais vous donner, c'est que en fait, on peut envisager, lorsque l'on se base uniquement sur des domaines d'expression génique, qu'il existe certaines homologies entre les parties distales des membres ptérygiens et des membres chirydiens. On ne peut pas, à l'heure actuelle, dire que, effectivement, les rayons, les lépidotriches, ne sont pas homologues aux doigts. Personnellement, je dirais qu'il y a peu de probabilité qu'ils le soient, qu'il y a énormément d'évidences qui ne soutiennent pas cette vue. Mais de la même façon qu'on n'a pas d'évidence absolument décisive que c'est le cas, on n'a pas d'évidence absolument décisive que ce n'est pas le cas. Et donc, l'on est obligé, et c'était le but un peu de ce cours, d'utiliser d'autres critères d'homologie. Et j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de ces quatre niveaux d'homologie. Mais à mon avis, aujourd'hui, il n'existe pas d'évidence qui nous permette d'affirmer que les poissons, d'une façon ou d'une autre, ont des doigts ou des structures qui ressemblent, d'une façon ou d'une autre, à nos doigts. Des études supplémentaires sur le poisson à poumon, parce que je ne vois pas quel autre modèle pourrait être utilisé pour essayer d'affiner cette conclusion. Peut-être y aura-t-il plus tard d'autres éléments qui viendront, et en particulier, souvenez-vous, je vous ai parlé de ces expériences de séquençage d'ARN de cellules uniques sur le traçage cellulaire, le linéage, avec cette étude d'un groupe de l'Institut Weizmann en Israël. Eh bien, peut-être que lorsque toutes ces nageoires auront été séquencées, ça va venir rapidement, donc chaque cellule de chaque nageoire sera identifiée, et puis qu'on aura les trajectoires développementales de ces cellules, peut-être que là, on aura encore un nouveau niveau d'homologie où on pourra superposer ces différentes trajectoires et puis se dire, ben voilà, effectivement, ces cellules distales qui passent par ce chemin dans le cas d'un membre chirydien, ben on a un chemin qui est très similaire dans le cas du membre du poisson à poumon, mais pas du tout comparable à celui du etc., etc. Donc peut-être qu'on arrivera relativement rapidement à affiner cette notion d'homologie. Puis ma deuxième conclusion, c'est une conclusion d'ordre alors plus général qui est que lorsqu'on s'attaque à une question évolutive qui est vraiment essentielle et pour laquelle on peut vraiment se demander au départ s'il existe une réponse, parce que c'est ça vraiment le problème. Et si une réponse existe, comment peut-on la trouver? Je pense que vous avez pu percevoir au cours de ces six leçons que même lorsque l'on court après un but qui visiblement est inatteignable, dans ce cas particulier, ça permet tout de même d'acquérir toute une série de connaissances qui vont enrichir le domaine et qui font que peut-être un jour cette question va passer du domaine du souhaitable au domaine du possible. Et puis, en parallèle, j'ai également essayé de vous montrer dans ce cours la très grande différence qui existe parfois en biologie et je dirais particulièrement dans ce domaine, qui est un domaine à cheval entre les sciences de la vie et l'évolution, pour autant que l'évolution ne passe pas partie des sciences de la vie, mais dans ce domaine qui touche à l'évolution, la différence qui existe entre vraiment des résultats scientifiques clairs et leur interprétation, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à comprendre. C'est ce qui fait à la fois la difficulté de cet exercice, c'est que lorsque l'on lit une publication, on a à la fois des résultats, mais on a aussi l'interprétation qui est essentielle, qui est nécessaire. C'est deux choses qu'il faut peser de façon presque indépendante. Mais c'est également ce qui nous ramène constamment à se souvenir que la recherche est conduite avant tout par des femmes, par des hommes, et que par conséquent, essayer de rechercher une objectivité ou une vérité dans ces travaux est quelque chose qui n'est pas possible. Voilà, avec ça, je voulais vous remercier de votre présence, et puis je voulais vous dire que l'année prochaine, le cours aura lieu également au mois de mai et au mois de juin, et je vais essayer de faire un cours sur quelque chose qui me passionne, qui est la notion du temps pour l'embryon, comment le temps est inscrit dans le génome, quelle est la façon de mesurer le temps, pourquoi 9 mois, pourquoi pas 4, pourquoi, etc., etc. Voilà, je vous souhaite un bon été, et puis j'espère vous revoir l'année prochaine. Au revoir.